Eh bien bonjour, nous sommes sur Fréquence Mistral. Je vous propose donc pour la première fois un rendez-vous en poésie et en rencontre. Et je vous propose de jouer en coup de cœur et peut-être même en coup de gueule, pas forcément aujourd'hui mais bientôt, pour jouer dans le jardin des mots. Alors, Jean Giono disait que le soleil n'est jamais plus beau qu'un jour où l'on se met en route. Et moi, ça me renvoie à l'image du petit poussé avec tous ces petits cailloux blancs qui, pour moi, sont autant de souvenirs de rencontres et de souvenirs de lecture. Donc, bienvenue au Jardin des mots. Suivez-moi, nous allons mettre le chemin sous nos pieds. Pour cette première édition, nous aborderons le voyage en quelques escales. Tout avant de partir, pour nous mettre dans le ton, je vais vous lire quelques vers d'un poète que j'aime beaucoup, de Daniel Schmitt, qui s'appelle « Donné par la nuit ». Dans le chemin creux, en ce début d'octobre, l'été était encore trop proche de son regard. Il vit un perdreau gris traverser d'un vol rapide un champ tranquille, souvenir d'une arrière-saison d'enfance. Un coup de feu parcourut les années sans toucher le volatile qui se posa sur un aujourd'hui frémissant encore de la vibration de la cartouche odorante, abandonné au pied d'un champignon antique, à jamais protégé par la haie sans mesure de l'espace et du temps. La main proche et lointaine d'un chasseur mélancolique se pencha sur cette nature morte, vernie par la pluie de tous les automnes rassemblés de son existence. Un premier petit pas sur le chemin, et avant de partir ensemble et de rencontrer mon ami et quelqu'un que vous connaissez bien, René Frény, j'ai envie de faire une première escale en vous parlant d'un livre. Un livre qui est un voyage, qui pour moi a été un voyage de grande découverte, puisqu'il nous parle d'un pays très très lointain. Et ce livre s'appelle « L'homme qui passe savait la langue des serpents ». C'est un livre d'Andrus Kivirak qui est sorti l'année dernière. Et ce livre fait un tabac, ma foi, un tabac dans son pays. Il est traduit de l'estonien. Et il est postfacé par Jean-Pierre Minaudier. Alors, on va vous passer les histoires, hein, puisque la préface très très bien faite vous parlera elle-même de la cohérence de ce récit avec l'histoire. Mais c'est un texte où l'auteur mêle, dans un contexte historique et dans un langage extrêmement moderne, il nous embarque dans une espèce de conte au sujet universel. L'enfance, l'apprentissage, le changement de monde à l'occasion d'un profond remaniement de la société, des valeurs qui se perdent, la violence, la haine de l'étranger. Car ce livre, c'est l'histoire du dernier des hommes. Du dernier des hommes qui parlait la langue des serpents. C'est l'histoire de son ami Hans, qui est lui-même un serpent. L'histoire de sa sœur, qui tomba amoureuse d'un ours, pourquoi pas. De sa mère, qui rôtissait compulsivement des élans pour nourrir la famille. D'un grand-père qui guerroyait sans jambes, d'une paysanne qui rêvait d'un loup-garou, d'australopithèques qui élevaient des poux géants et d'une salamandre qui volait dans les airs pour maintenir la paix. C'est l'histoire d'un poisson titanesque et las du monde et c'est l'histoire de chevaliers teutons épouvantés par tout cela. Alors ce livre, c'est un long flashback dans lequel le maître, qui est un héros, refuse toute soumission. Et bien évidemment, il se retrouve de plus en plus seul dans cette forêt qu'il refuse de quitter. Convaincu que ceux qui partent vers la ville, attirés par les sirènes de la modernité, ont perdu la raison, il vivra seul, dernier homme du peuple de la forêt, dernier gardien des traditions. Vous le voyez, c'est un conte qui n'en est pas un, peuplé de personnages fantastiques. C'est un pamphlet contre toutes les croyances qui excluent, qui séparent les hommes. Il y a de belles descriptions de la nature, il y a des scènes abracadabrantesques. Je vous laisserai imaginer les femmes de la forêt qui, faute de trouver des hommes, s'offrent à des ours, pataux, mignons, terriblement séducteurs. Nous avons là une virulente critique du fanatisme aveugle, de tout extrémisme. C'est une mise en garde contre l'ignorance, avec en trame de fond la perte de la langue. Car ce livre permet aussi d'aborder un thème cher à l'auteur et qui me touche particulièrement, c'est la langue. Est-ce que c'est la langue qui nous fait appartenir, qui fait de nous ce que nous sommes? Est-ce que c'est l'appartenance à un lieu qui nous définit? Est-ce que lorsqu'une langue meurt, c'est un mur qui s'écroule ou c'est une barrière qui se construit. En fait, voilà un livre qui met mal à l'aise et qui met à mal nombre de présupposés, nombre de préjugés. C'est un fantastique, dans tous les sens du terme, roman sur la solitude. Parce que la grande maladie des hommes de ce livre, c'est aussi qu'ils rêvent d'une autre vie. Bon, alors dans ce livre, les amateurs de fantastique, ils verront un truc très très sympa, un récit épique, où la salamandre, appelée par le sifflement en harmonie des hommes, repoussera des milliers d'envahisseurs. Les écolos y verront une ode à la nature, parce que l'homme vivant en symbiose avec le règne animal et végétal. Les amateurs de sensations fortes y trouveront le récit de batailles sanglantes, de morts atroces, de rites sacrificiels. Ceux qui aiment rire seront comblés, je vous l'assure, et les historiens en apprendront beaucoup sur la culture estonienne, sur ses mythes, sur ses légendes. Et puis nous tous, nous aimerons Limet, ce Limet qui nous ressemble parfois, par son questionnement, son espérance inespérée, lui qui tente de lutter contre la crédulité et l'ignorance, dernier homme à pouvoir parler avec des serpents, le seul à connaître le langage qui réveillera la salamandre et qui rendra aux hommes la paix et la liberté. C'est un livre qui est sorti l'année dernière aux éditions du Tripode, et c'est un livre que je vous invite vraiment à découvrir. On le connaît peu, il fait un peu peur, il est très gros, mais je vous assure, c'est un très très beau coup de cœur.
Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'aime mal rêver. Je me sens pareil au premier lourdeau, qu'encore émerveille le chant des oiseaux. Les gens de ma sorte, il en est beaucoup, savent-ils qu'ils portent une pierre au cou. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'aime mal rêver. Pour eux, les miroirs, c'est le plus souvent, sans même s'y voir qu'ils passent devant. Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie, c'est une innocence que je leur envie. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'aime mal rêver. Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Il m'a fallu naître et mourir sans suie. J'ai défait pour n'être que ce que je suis. Une saison d'homme entre deux marées. Quelque chose comme un champ égaré. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé.
Eh bien, une bien belle musique. Monsieur Frény, Maître Frény, bonjour. Je
suis bonsoir très Christiane heureuse. Et bonsoir à tous, tous ceux qui nous écoutent.
Je suis très très heureuse de t'accueillir dans ce studio de Fréquence Mistral. Et Ferrat et Aragon ont fait une très belle transition pour te recevoir. Alors, René Frény, c'est un auteur et c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Et pourtant, j'ai bien envie de dire quelques petits mots. Car parler de René Frény, c'est une voix, c'est un sourire, c'est un regard vif et attentif. C'est un regard qui pourtant n'est jamais tout à fait là. Car il y a dans ses yeux une espèce de sérénité, mais de sérénité peuplée d'images, peuplée de souvenirs. Je sais qu'il s'est merveilleusement parlé de Giono, des femmes, des romans noirs, des polars, Et je sais aussi que sa parole est une parole de sensualité qui n'appartient qu'à lui. Alors, je vais soumettre Monsieur Frény à, non pas un feu de questions, mais à quelques, pour qu'on sache un petit peu plus de lui, et puis surtout pour le plaisir. Parce que René, c'est une vie, et c'est une vie d'écriture. Est-ce que je peux, René, faire un petit CV de Monsieur René Frény?
Mais tu as, c'est ton émission, Christiane. Tu es chez toi. Tu me reçois, tu es chez toi. Donc, vas-y.
Alors, on peut dire quand même, parce que ce n'est pas si vieux que ça, hein, que tu es né à Marseille, que tu es né en 1947.
À peu près.
Bon,
à 10 ans près.
À 10 ans près, d'accord.
Il peut y avoir des jeunes filles très jolies qui nous écoutent et je ne voudrais pas qu'ils me vieillissent trop quand même.
Mais je suis désolée, mais de toute façon, il suffit d'ouvrir Internet et on découvre Monsieur Google qui nous donne ton âge à toutes les pages. Donc,
Un écrivain peut inventer son âge et une femme peut inventer sa beauté. Mais je te laisse continuer.
Une femme peut inventer sa beauté, j'aimerais bien ça, ça serait pas mal, tiens. Alors, Monsieur Frény, donc, il a eu une vie un petit peu chaotique quand même, on va dire ça comme ça. De brèves études, déserteur, fausse identité, il a été plongeur en Turquie, il a été manutentionnaire en Italie, il a été berger aussi, berger en Corse.
Berger, disjockey en Corse, découpeur chalumiste à La Ciotat, infirmier en psychiatrie, mille petits métiers avant d'écrire.
Avant d'écrire, mais en même temps qu'écrire aussi. Parce que si j'ai bien entendu et si j'ai bien compris l'histoire de cette vie, tes métiers t'ont permis de subvenir à tes besoins, mais pour le but était toujours d'écrire, pour arriver à écrire.
En trois mots, les trois dates de ma vie. À 6 ans, je rentre à l'école, on se moque de moi, je porte des lunettes, on me traite de quatre œils. Donc, je suis tellement désespéré d'être différent que je jette mes lunettes et je reviens à l'école sans y voir. Et je rate toutes mes études, je prends peur de l'école, peur de la lecture, peur du maître, peur de tout. Et donc je ne vais plus à l'école. Et à 19 ans, comme j'étais en voyage, après m'être arrêté au BEPC, je suis parti en Turquie et j'ai mis 2 mois pour revenir en France. Et là, comme je suis arrivé avec 2 mois de retard au service militaire, j'ai écopé de 6 mois de prison. Et c'est grâce à ces 6 mois de prison que j'ai remis des lunettes. J'étais seul dans une cellule. J'ai remis des lunettes sur mon nez. L'aumônier m'a apporté mon premier livre. Je n'avais jamais rien lu. C'était un livre de Giono, Colline. Et j'ai commencé ce grand voyage immobile dans une cellule qui est le voyage de tout lecteur. Et là, j'ai marché dans le monde entier. Et ça fait 40 ans que je marche tous les jours en lisant et en écrivant. Donc je n'ai pas décidé d'être écrivain à 19 ans. À 19 ans, j'ai lu mon premier livre. Ce qui est très rassurant pour tous les illettrés de la Terre. On peut commencer tard et finir chez Gallimard. Mais donc, je commence à lire à 19 ans et je n'ai plus cessé. Et c'est petit à petit que l'appétit est venu, la fin d'écrire est arrivée et je suis devenu, disons, un apprenti écrivain à l'âge de 30 ans et j'ai été publié à 39 ans.
Eh bien voilà, parcours, un raccourci saisissant. Alors, je sais également, René, que écrire, c'est pas toi qui écris en fait, hein. Il paraît qu'il y a un petit bonhomme qui trotte dans ta tête et qui te dicte.
Oui, je crois qu'un grand écrivain, déjà avant d'être écrivain, j'étais lecteur, comme nous tous. On est des grands lecteurs avant d'écrire. Et qu'est-ce que c'est qu'un grand livre? C'est un petit bonhomme qui rentre dans votre tête et qui vous raconte une histoire. Moi, les grands romans que j'ai lus, que ce soit Don Quichotte, Le Hussard sur le toit, que ce soit Voyage au bout de la nuit, L'étranger de Camus, les grands romans, eh bien, j'ai senti que ces gens-là entraient dans ma tête. Céline, comme Genet, comme Giono, ils sont entrés dans ma tête et ils m'ont raconté une histoire. Alors, ces livres-là que j'ai cités, ils ont été lus avant moi par des millions de gens. Mais moi, quand je les ai lus, je ne le savais pas. Et j'avais l'impression que Céline était dans ma tête, que Giono était dans ma tête et qu'il me racontait une histoire. Voilà ce que c'est qu'un grand écrivain. C'est quelqu'un qui entre dans votre tête et qui vous murmure une histoire. Même pas à l'oreille, dans votre tête. Et c'est pareil, quand on se met à écrire, il y a quelqu'un qui est dans votre tête, qui vous dicte les mots. C'est un peu un alter ego. Mais ce petit bonhomme qui est dans ma tête, dès que je prends mon stylo, il est vivant. C'est un autre moi-même. Et il me dicte des choses que je ne connaissais pas de moi. Voilà, c'est le propre de l'écriture. On descend dans des mers profondes, tellement profondes qu'on va ramener des choses qu'on n'imaginait pas. Et ce petit bonhomme, qui est un pêcheur de mots, qui ramène à la surface tout ce que vous ne saviez pas, les monstres qui sont en nous et toute la lumière aussi. Tu as dit, je crois, l'instant, j'avais un visage très, un regard très serein. Avec le temps, mon regard est devenu serein, mais je crois qu'il est peuplé d'inquiétude et cette inquiétude qui ressort comme un chaos dans tous mes livres. Je crois que mes livres, c'est un éboulis d'inquiétude.
Un éboulis d'inquiétude, c'est un joli mot. Il me semble que tu viens de dire, d'ailleurs, je prends mon stylo et j'écris.
Ouais.
Parce que tu ne fais pas partie des écrivains derrière leur ordinateur. Et tu as toujours ces petits cahiers sur lesquels tu écris tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Bah, tous les jours, oui, c'est ce qui me rassure le plus. J'ai repris un livre et un cahier en septembre parce que c'est peut-être en septembre que je suis le plus inquiet de devoir mourir. Et en septembre, c'est tellement beau, c'est le mois le plus beau pour moi parce que c'est bleu, c'est limpide, il y a des couleurs qui arrivent, il y a les peupliers commencent à être d'or, il y a des érables qui prennent des couleurs rousses, il y a des prunus qui sont rouges. Dès septembre, la nature devient magnifique, tellement belle, et puis les touristes sont un peu partis, dont les collines, elles sont beaucoup plus silencieuses, et les lacs et les rivières. Donc moi, je suis bien sur les chemins, et c'est tellement beau que j'ai peur de quitter tout ça. Et je me dis que si mes parents sont morts, si mes amis sont morts, ça risque de m'arriver aussi. Et donc, j'ai tellement peur que j'achète un cahier et je me mets à écrire. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour écarter mon inquiétude, écrire. Voilà, c'est comme si je marchais, mais je marche sur des chemins de mots. Et quand j'écris, j'ai l'impression que je repousse la mort et qu'elle tombe de mon bureau. En écrivant, je fais tomber la mort de mon bureau. Et là, je sais que je vais attaquer l'hiver dans une grande sérénité. Tout l'hiver, j'écris et tout l'hiver, je suis bien.
Eh bien, je vous avais bien dit que c'était quelqu'un d'étonnant. Hein. Tu as écrit, René, que seules les mères et l'écriture ne nous abandonnent jamais.
Ouais.
Et tu dis, chaque cahier qui s'ouvre est un berceau calme et blanc. Chaque cahier fait de moi un enfant.
Pour plusieurs raisons. Parce que comme je n'y voyais pas, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais jeté mes lunettes, ma mère s'est aperçue que je n'y voyais rien et elle s'est mise à me lire le soir de très beaux textes. L'histoire de Jean Valjean, Les Misérables, elle m'a lu Sans famille, qui me faisait pleurer tous les soirs, et puis le Comte de Monte Cristo, parce que c'était en face de chez nous, on voyait le château d'If, et j'imaginais cet homme dans les sous-sols pendant des années avec le vieil abbé Faria, et ça me faisait rêver. Et donc rêver d'abord de son évasion, rêver de sa vengeance, et j'ai cru qu'il existait. Parce que c'était la voix d'une maman, et qu'une maman dit toujours à son enfant la vérité. Donc j'ai cru que le comte de Monte Cristo était quelque part dans les rues de Marseille, et je me suis mis à le chercher quand j'avais 7 ou 8 ans. Et c'est devenu le plus beau des Marseillais, le plus grand. C'était une idole pour moi, le comte de Monte Cristo. Mais de la voix de ma mère sortait le monde entier. Des paysages, des routes, des personnages, des amours, des vengeances aussi. Et tout ce que disait ma mère était vrai. J'ai compris la puissance des mots. Et lorsque j'écris aujourd'hui, je n'emploie que les mots que prononçait ma mère, les mots les plus simples. Le mot automne, le mot rivière, le mot jardin, le mot repas, voilà. Et le mot chambre à coucher. Les mots les plus simples, parce qu'ils sont gorgés d'émotions. Les mots savants, les mots trop culturels, les mots qu'on va chercher dans un dictionnaire, ils ne m'intéressent pas trop parce qu'ils ne sont gorgés de rien. Tous les mots que ma mère connaissait, elle en connaissait quelques centaines, pas énormément, puisqu'elle était femme au foyer. Mais tous ces mots étaient beaux parce qu'ils étaient chargés d'émotions. Et je n'écris qu'avec ces mots.
Alors, je vais vous lire juste quelques lignes que René a écrites dans La fiancée des corbeaux, que je trouve pour ma part extrêmement beau, justement. J'ai toujours un cahier près de moi. Il y a 40 ans que j'achète des cahiers aux fines lignes rouges, violettes, bleues. Je prends peu le train et encore moins l'avion. J'entre dans mes cahiers comme on pousse la grille d'un parc, de chaque territoire magique. Ils sont bruissants d'arbres, de vent, de ville et de lumière. Chaque page est plus bruyante qu'une gare ou qu'un port. Quand je me réveille la nuit, je n'éclaire pas. Je ne bouge pas. J'écris sous mes paupières. Je dessine des mots de lumière sur la page obscure d'une insomnie.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu lis mieux que moi. Moi, justement, j'avais pris la terreur de la lecture à haute voix. Tu l'as très bien lu. Mais c'est comme ça que je vis. Je me réveille toutes les nuits et pendant une heure ou deux, je reste dans l'obscurité, j'écris sous mes paupières et je réécris sur mon cahier le matin, dans la lumière du matin, ce que j'ai écrit sous mes paupières la nuit. Voilà comment je travaille. Je ne sais pas taper à la machine, je ne travaille jamais sur un ordinateur, je fais tout à la main. Et parce que c'est un métier d'artisan, l'émotion arrive beaucoup mieux dans mon stylo que sur un clavier.
Alors, un petit clin d'œil d'abord, parce que j'ai entendu très récemment la différence entre un amateur et un faiseur technique. Hein. C'est que l'Arche de Noé a été fait par un amateur et le Titanic par quelqu'un qui savait faire. Ça, c'était le clin d'œil. Mais je voudrais, en écho à ce que tu viens de dire, vous proposer d'écouter Marina Rossel, qui, dans un petit voyage en Catalogne, nous dit « Tu regardais tout. Tout était un impact à tes yeux. Tu cheminais sans inquiétude. Tu savais que ce voyage était de feu et tu observais tout, minutieusement. Minutieusement. Il n'y avait aucune peine à écrire sur aucun papier. Sexe, plaisir, inondait ton corps et nous cheminions. Écoutons. »
Tot era un impacte als teus ulls. Caminaves sense desassosseg. Sabies que aquell viatge era de foc i observaves tot minuciosament. No hi havia cap pena per escriure en cap paper. Sexe i plaer inundaven el teu i el meu cos i caminàvem i sentíem el crit d'un barquer. Era sota el cel de gener, prop del mar, de mar a mar. Nit ni a cap llit o sensació perfecta de confort. T'estimo i t'ho dic, invoco el meu jo més pur, perquè aquesta cançó pregunta per a tu i no sé on ets ni si et veuré més.
Eh bien voilà, une petite découverte peut-être. René, on ne va pas être dans l'intello, on ne va pas être trop loin. Hein. Donc j'aimerais simplement t'entendre parler, comme tu viens de le faire en voix off, de ce qui te touche, toi, dans l'écriture.
Ben, j'ai dit le mot le plus important, c'est le mot émotion. La littérature, c'est des mots qui tournent autour d'une émotion. Comme des constellations qui tournent autour du soleil. Et si le soleil s'éteint, c'est-à-dire si l'émotion s'en va, il n'y a plus de mots. Les mots ne tiennent que parce qu'il y a une émotion. C'est ça la littérature, des mots qui tournent autour d'une émotion. Donc c'est ce qui m'intéresse quand je lis un livre. Si je ne suis pas ému à la 10e page, je laisse tomber le livre. Il y a des millions de livres partout, plein dans les librairies, les gares, les bibliothèques. Donc quand un livre ne m'intéresse pas, quand je m'endors dessus, je l'abandonne tout de suite et j'en prends un autre. Si à la 10e page, je n'ai pas reçu une émotion qui me traverse le corps, voilà. les grands livres que j'ai cités tout à l'heure, et les centaines de livres que j'ai lus, c'est parce que dès la première page, je sentais qu'il y avait un ton, une voix, que le type avait dans le ventre quelque chose de puissant. L'écriture, c'est pas l'élégance, c'est pas la préciosité, c'est pas le nombre de mots, c'est la puissance. La puissance, c'est l'authenticité, c'est la force du type ou de la nana qui prend son cahier et qui raconte l'urgence de sa vie. Ses désirs, ses peurs, ses révoltes, des mecs qui gueulent, des mecs qui ont faim, des mecs qui ont envie de faire l'amour, des mecs qui marchent, des mecs qui rêvent, des mecs qui crèvent de peur devant la mort. C'est ça la littérature, c'est la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, il n'y a que des mots. Des mots qu'on trouve dans un dictionnaire, qui sont mis les uns après les autres, mais il n'y a pas cette puissance d'émotion. C'est ça la littérature.
Et alors, est-ce que c'est cette passion qui te porte, qui t'a fait rencontrer justement les ateliers d'écriture et tes compagnons d'émotions, justement, puisque tu les appelles comme ça?
Oui, c'était un vieil ami, Jean-Jacques Bouin, à la DRAC, qui avait lu Les Chemins Noirs, mon premier roman, où je raconte mes 6 mois de prison militaire. J'étais resté 6 mois dans une cellule et pendant 6 mois, j'avais lu et écrit mes premiers vers, mes premiers poèmes. Et donc, je n'avais pas souffert. Comme dans les autres cellules, les détenus souffraient de solitude. Et au bout de 6 mois, ils devenaient tellement fous, parce que nous n'avions qu'une heure de promenade par jour, qu'ils insultaient les murs, ils insultaient la porte, ils se cognaient la tête. Et moi, j'ouvrais un livre et je partais en voyage. Et je me suis rendu compte de la puissance des mots. Ce voyage que je faisais tous les jours, je passais à travers les barreaux grâce à un livre, et je voyageais, mais j'étais bien. Même dans ma cellule, j'étais bien parce que j'étais le seul à voyager dans ce couloir de prison. Eh bien, j'ai continué ce voyage et Jean-Jacques Bouin, donc ce type qui travaillait à la DRAC, m'a appelé et m'a dit « Je ne vous connais pas, j'ai lu Les Chemins Noirs, accepteriez-vous d'aller travailler en prison ? Proposez comme ça des textes, partagez vos émotions. » Et j'ai commencé dans la vieille prison Sainte-Anne qui est fermée aujourd'hui à Avignon et pendant 20 ans, tous les lundis, je suis allé dans les prisons, à Luynes, au Beaumettes, à Avignon, apporter des mots, des émotions, partager une forme d'amitié, un café littéraire au sein d'une prison. C'est-à-dire, on est 10-12 hommes autour d'une table, comme je suis avec toi, on parle de tout, de rien, on écrit, on rit, il faut que ce soit vivant. Le moins scolaire possible, parce qu'ils ont tous raté leur scolarité. Eh oui. Ils étaient terrorisés par l'école, comme je l'ai été moi-même. Donc il faut casser la note, l'estrade, le professeur, les cours. Et on se met autour d'une table, on boit un café, comme dans un café, le parfum du café. Et puis, entre amis, on se met à évoquer des voyages, des amours, des chevelures de femmes, des corps de femmes, l'odeur de la mer, l'odeur des bateaux. Et on part en voyage. Et puis, les gens qui étaient venus là, autour de la table, pour voir ce que c'était qu'un atelier, un petit peu inquiet de ce que j'allais leur demander. Au bout de 2-3 séances, ils venaient dans ce bistrot, on buvait un café et on partait en voyage. Voilà, il faut casser la peur, installer la confiance. C'est comme ça qu'on peut réussir des études. Et ils restent 5 ans, 10 ans dans mon atelier. Et certains sont devenus des écrivains.
Eh bien, un petit clin d'œil quand même pour ce Jean-Jacques Bouin dont tu viens de nous parler, qui a été quand même quelqu'un qui a beaucoup marqué, hein, qui avait la capacité de faire sortir justement le livre des rayonnages et du formalisme, on va dire. Alors je vais te paraphraser et je vais dire en avant, en route, il ne reste plus qu'à faire le plein de mon stylo.
Rimbaud.
Voilà.
Il y a une phrase de Rimbaud que j'aime beaucoup aussi, c'est « Je vais m'acheter un cheval et partir trafiquer dans l'inconnu ». Je vais m'acheter un cheval et partir trafiquer dans l'inconnu. Toute la poésie est là. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Jonas aussi, la phrase que tu as lue tout à l'heure. Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route. Voilà. L'écriture, c'est marcher à travers des collines, à travers des forêts, c'est traverser des pays. Tu écris un mot, tu fais un pas. Tu fais un pas, tu écris un mot. Je vais m'acheter un cheval et partir.
Ce qui est très étonnant aussi, c'est la façon dont, en relisant des textes qu'on a écrits, hein, visiblement, c'est notre écriture et notre cahier, on ne se rappelle absolument pas avoir écrit cela. C'est vrai que c'est le corps qui écrit à travers nous. Comment
On a une vieille mémoire enfouie, oubliée. C'est toute l'œuvre de Proust. C'est peut-être le plus grand voyageur. Il n'est jamais sorti de son lit, Proust. Il rentrait de ce petit tour dans Paris. Il se mettait dans son lit, se calait dans ses oreillers et il écrivait. Et je crois que c'est le voyage le plus lointain qu'on ait fait. C'est le voyage intérieur. Et c'est ça la littérature. Un peu ce que dit Giono. Ce qu'il y a dans le talus derrière chez moi, c'est beaucoup plus grand que l'Océanie. Mais il faut se concentrer, il faut regarder. Et quand on regarde notre passé, notre mémoire, ce que Proust appelle la réminiscence, moi je l'ai essayé dans le livre que tu as devant toi, Le voleur d'innocence. J'avais décidé de raconter mon enfance et j'ai revu ma cuisine dans ma tête, j'ai revu la cuisine où j'ai grandi, à Marseille, et j'ai écrit le mot cuisine, le mot maman, le mot toile cirée, et petit à petit cette cuisine s'est recomposée devant mes yeux et j'ai vu le moindre détail de cette cuisine que j'avais entièrement oublié. Et c'est ça le monde proustien. Tu dis le mot maman et tu descends dans des réminiscences. J'avais tout oublié. Eh bien, de fixer un seul mot, le mot cuisine, j'ai tout revu. Et petit à petit, j'ai revu toute mon enfance, mais presque au jour le jour. Les odeurs de l'école, les odeurs de l'automne, les odeurs des jardins, le parfum de ma mère, la voix de ma mère, alors qu'elle n'était plus là quand j'ai écrit ce livre, elle était morte, mais je la revoyais, parce que chaque mot redéfinit une réalité.
Alors moi je vous propose une petite interruption pour écouter une voix. C'est la voix de quelqu'un, tu souhaitais au départ lorsque nous avons parlé de livres de voyage, tu m'avais dit, il y a Genet et le journal du voleur. Alors moi, je vous propose d'écouter quelque chose que j'ai retrouvé dans des richesses enfouies.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs.
Oui, je trouve ça très beau parce que c'est un des écrivains qui m'a le plus ému. Voilà quelqu'un qui est rejeté par la vie, rejeté par sa mère. Il grandit entre l'assistance publique et les parents, comme il dit, dans le Morvan. Et puis, on le surprend en train de voler. Et c'est là qu'il comprend que le mot voleur va devenir très important pour lui, parce que lui qui n'a pas de nom, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'affection, que personne n'aime vraiment, brusquement, on lui dit avec une grande conviction « voleur ». Et il se raccroche à ce mot, parce qu'enfin, on le désigne, on le nomme, c'est un voleur. Et lui qui n'a pas pu entrer dans la société par les grandes portes dorées de l'affection, il va rentrer par la petite porte du mal. Non pas la grande porte du bien, mais la porte du mal. La porte des pensions, la porte des prisons, la porte du vol. Et c'est comme ça qu'il va se créer une identité. Par cette porte du mal, il va devenir un traître, un voleur, un homosexuel, tout ce que la société rejette et réprouve. Et ça, c'est magnifique, c'est bouleversant de voir ce type qui n'était rien, mais tellement rien, qui rentre dans notre société par les portes du mal, et il devient peut-être le meilleur d'entre nous, parce que l'un des plus grands poètes, l'un des plus grands écrivains, et qui se permet de parler là au passé simple, on l'a écouté, « Je fus, j'obtins ». Il parle au passé simple alors qu'il est né dans la rue, abandonné sur un trottoir, et ça devient un écrivain magnifique. Donc c'est terriblement émouvant.
Tout à fait, tout à fait. Pour rester dans l'émotion, je vais peut-être lire quelques lignes du voleur d'innocence. Tu permets ?
Volontiers.
Un matin, nous nous sommes réveillés sous un ciel immobile. Le jardin se chauffait au soleil entre ses murs frileux. La maison était vide. Nous avons bu un grand bol de café au lait, ma mère et moi, et nous sommes descendus nous tiédir au jardin. Les oiseaux avaient fait comme nous, ils piaillaient de plaisir, blottis dans les coins chauds. Je l'ai installé contre la façade, son cache-nez roulé autour du cou, un journal sur la tête. je me suis mis au travail afin qu'elle voie que la vie continuait chez nous et que j'étais utile à la maison. Je coupais les herbes brûlées par l'hiver, comme le faisait papy lorsqu'il débarquait de Corse. Je contournais prudemment les rosiers sauvages et les roses trémières. Je nettoyais le pied des lilas, puis je faisais des meules minuscules de foin. Je binais ensuite le tour du prunier ou de l'abricotier. Quand tout était impeccable, j'allumais des feux dans l'air calme du matin. Les fumées se tressaient là-haut aux voiles de brume encore accrochées aux briques des cheminées. Et l'après-midi coulait sur ce recoin de bonheur, avec de loin en loin le chant tardif d'un coq, l'aboiement d'un chien qui s'épuise à rompre son collier, le ronron d'un tracteur qui grignote les mottes sombres de l'hiver dans un vieux maïs qui frissonne au soleil. Le sourire de ma mère semblait s'accrocher un peu au coin des choses, comme l'eau trop calme et profonde d'un cours d'eau que les pierres saillantes font brusquement bondir et briller d'un roulement nouveau. C'est extrait du Voleur d'innocence, donc l'un des ouvrages qui m'a le plus marqué peut-être de ce que tu as écrit, qui m'a...
Oui, ben, c'est le... Je dirais que c'est le soleil de ma vie. Quand je regardais ma mère et quand elle me regardait, je n'avais peur de rien. Elle me regardait souvent jouer dans ce petit jardin de la banlieue de Marseille. Et puis dès que je voyais ses yeux derrière la vitre de la cuisine, je me sentais tellement puissant, tellement fort. Et même si elle, en vieillissant, elle est devenue très fragile, très inquiète, très anxieuse, je le raconte un peu là dans ce passage que tu as lu, il suffisait qu'elle soit là, sa présence me rassurait, et nous partions souvent dans le centre de la ville. C'est elle qui m'a amené voir les premiers films de Charlot que j'ai vus, elle m'a amené dans une pâtisserie, elle me tenait la main, et j'ai l'impression que cette ville, à l'époque, Marseille, était une ville bleue uniquement parce que ma mère était vivante. Et puis quand elle a disparu, cette ville, qui est toujours sous le même soleil, sous la même lumière, elle est beaucoup plus noire pour moi, parce que il n'y a plus la main de cette femme, le regard de cette femme. C'est absolument tout dans la vie d'une maman. Elle est là, et la ville est bleue. Elle s'en va, et ça devient une ville noire. C'est même si cette ville s'est noircie par son chômage, par ses quartiers nord, par ses jeunes qui se tuent à la... C'est vrai, il y a cette réalité sociale qui est très triste, mais il y a surtout pour moi le départ d'une maman qui a fait que cette ville a changé de couleur.
Et voilà aussi ce qui me touche et qui probablement touche aussi nos auditeurs chez le magicien que tu es, hein. C'est ce dédoublement de personnalité, j'allais dire. Parce que René Frény, c'est aussi l'écrivain noir, l'écrivain des cachots obscurs, de la violence. Et puis c'est le René qui aime la rue, les rencontres, les échanges, celui que l'on va voir dans sa petite maison perchée, et qui, sur la terrasse, en regardant les toits de la ville de Manosque, continue ce voyage permanent, ce voyage immobile, comme tu le dis si bien. Tu es un écrivain comblé, hein, reconnu partout, et pourtant il reste vraiment chez toi cette modestie, ce désir et cette jouissance du quotidien.
Oui, c'est... Je suis, comme l'était Giono, je crois, assez pessimiste sur l'avenir des hommes quand je regarde les journaux. Et je suis gai dès que je regarde la vie. Dès que je descends dans la ville de Manosque boire un café, même ailleurs, sur un port, je regarde passer les femmes. Ça a été l'une des passions de ma vie, regarder marcher les femmes dans la rue. Ce bonheur me suffit presque pour vivre. Et puis, à l'écriture, bien sûr, je remonte chez moi et je commence à écrire. Et cette vie me satisfait parce que c'est une vie de liberté. On choisit un mot et on continue la phrase. Et personne n'est là pour vous dire « non, fais ceci, écris cela ». C'est une liberté. Je ne sais plus quel écrivain disait « j'ai décidé d'écrire pour pouvoir parler sans être interrompu ». Et je trouve ça très beau. Parce que justement, tu prends un stylo et personne ne t'interrompt. Je m'enferme chez moi et je pars dans mes voyages intérieurs et je vois tout. Je vois des arbres, je vois des voies ferrées, je vois des anciennes gares. Le souvenir se mêle avec ce que j'invente. C'est une liberté. Il n'y a pas de frontières sur un cahier. C'est tout petit un cahier, mais c'est le plus grand des pays. C'est plusieurs planètes réunies. C'est quelque chose de fabuleux, dont je conseille à tout le monde de se mettre à écrire ne serait-ce que 3 lignes. C'est un voyage extraordinaire. Donc, je suis quelqu'un de très sensuel. J'ai toujours aimé manger, faire l'amour, regarder la beauté. Et quand je regarde un visage de femme, discrètement, à la terrasse d'un café, j'oublie que je suis mortel. Et c'est peut-être le seul moment où j'oublie que je suis mortel. Cette immense beauté qu'on peut voir, cette lumière sur un visage de femme, ça écarte en moi l'inquiétude et la mort. Et c'est la seule chose. Ma mère a écarté cette inquiétude. Et quand je regarde un très beau visage serein, souriant, lumineux, j'oublie que je suis mortel. Et ça, j'essaie de le mettre. Tu disais que j'étais double. C'est vrai, nous le sommes tous. Oui, il y a une telle obscurité en moi que je fais des romans noirs, des romans policiers. Et en même temps, il y a une telle quantité de lumière aussi que ces livres sont éclairés par la lumière. Donc, ils sont à la fois bleus et noir, mais c'est ce que je sens sortir de moi quand j'écris. Donc nous sommes tous très doubles et il suffit d'écrire pour savoir que nous sommes tous très doubles. Les écrivains que j'aime, tu l'as dit, cette humilité dont tu parlais, j'aime les écrivains qui sont humbles, qui viennent de milieux très modestes. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Sous la ville rouge » où je dénonce le parisianisme, l'arrogance de Paris, le mépris de ces quelques Parisiens qui ont monopolisé les médias, les journaux, les télés. On ne voit que du matin au soir. Et moi, j'aime Jean Genet, j'aime Giono, j'aime Céline, j'aime ces types qui sont sortis de l'ombre des petites rues, qui étaient fils de dentelières, fils de repasseuses, fils de cordonniers, fils de rien, fils de dégain, comme on dit à Marseille, chien des quais, chien. Moi, j'ai toujours cette révolte en moi. Et c'est ce qui fait que mon écriture reste violente parce que je ne fais pas partie, justement, de cette petite intelligentsia qui a tout monopolisé avec beaucoup d'arrogance. Je reste un révolté. Moi, je suis du côté du comte de Monte Cristo, du côté de Jean Valjean, du côté des petits voleurs, voilà, des voleurs de poules. Mais justement, je crie, je hurle, je me révolte et c'est ce qui me maintient dans la marginalité. J'aime que Céline dise « La littérature, c'est dégoupiller une grenade et la balancer sous la coupole de l'Académie française. » Je reste comme ça, un révolté.
Et alors, dans ces ateliers d'écriture que tu partages, parce que les ateliers d'écriture se partagent avec les détenus ici et ailleurs, qu'est-ce que tu souhaites faire passer? Qu'est-ce que tu as envie?
L'humanité. L'humanité. Je pense que les mots que ma mère m'a donnés quand j'étais petit, ces mots, il faut les transmettre. Parce que on parle beaucoup en ce moment d'incivisme, de violence, de cruauté, de barbarie parfois, même dans les quartiers, de barbarie. Eh bien, je n'ai rien trouvé de mots de mieux depuis que je suis né que les mots, la poésie, le langage, la culture, pour écarter la barbarie. C'est culture ou barbarie. Eh bien, je vais leur apporter des mots. Je leur lis ce que tu viens de faire ici, ce que tu vas faire sans doute, Christiane, lire à haute voix des textes et ensuite en parler avec eux. En 20 ans d'atelier d'écriture, je n'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été violenté, je n'ai jamais été insulté. Il n'y a que de la gentillesse et je les regarde tous. Pierre a assassiné 8 personnes, l'autre a attaqué je ne sais pas combien de banques, l'autre a fait le trafic de cocaïne toute sa vie, le 3, ils sont tous dans des destins, mais ils étaient comme ça, tout petits, déjà dans des familles de voleurs, dans des familles de trafiquants, dans des familles d'alcooliques, dans des familles sans amour, et ils sont dans les baumettes, c'est leur place. Ils étaient destinés à finir au baumettes parce qu'ils ont commencé dans des familles complètement délabrées. Eh bien, je vais leur apporter des mots parce que chez eux, il n'y avait pas un livre, il n'y avait pas un violon, il n'y avait pas un piano, il n'y avait pas un seul mot d'amour, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Eh bien, c'est par les mots que tu peux ramener ces gens-là dans la société parce que tu vas les construire avec des mots. Ceux qui n'ont pas été construits par des mots, ils n'existent pas. Ils sont dans la violence. Il n'y a que les mots pour écarter la violence. Voilà ce que je fais dans les prisons. Il m'arrive souvent de me disputer avec des écrivains parisiens, pas parce qu'ils sont parisiens, mais parce qu'il y a cette arrogance. Ils arrivent et on dirait qu'ils ont découvert le monde, inventé le monde. Ils savent tout. Et ils te considèrent avec mépris parce que tu habites Manosque, Digne ou Besançon, avec mépris. Et je ne me suis jamais disputé avec ces voyous que je rencontre dans les prisons parce que je leur apporte des mots. Ils sont avides d'apprendre, de savoir et ils comprennent à un certain moment que ces mots vont écarter la violence en eux. Voilà. Culture ou barbarie?
Ah, tout à fait. Culture ou barbarie, et c'est bien Notre acte de foi aussi à
et
nous.
Et c'est ce que tu fais depuis une vie dans ta bibliothèque. Tu diffuses des livres, tu parles, tu lis, tu achètes des livres, tu les fais tourner dans le département. Tu fais le même métier que moi, culture ou barbarie.
Tout à fait. Alors là où j'en suis, j'hésite. J'hésite parce que j'avais très envie de lire un petit passage de l'été. Et puis en même temps, ton engagement me renvoie à un texte, à un communiqué que tu avais écrit après avoir été justement arrêté. Et je vais te demander à toi de choisir lequel des deux textes tu préfères que je lise.
Oh, ça m'est égal, mais non, choisis ce que tu préfères toi. Non, moi je suis ton invité, c'est toi qui fais l'émission, Christiane. Choisis ce que tu as envie de lire. On est chez nous ici, hein, moi j'ai été bien reçu. Les gens qui nous écoutent ne savent pas où on est. Bon, mais en tout cas, on est dans un petit coin de Digne, très joli. Moi je me penche à droite, je vois des montagnes qui s'obscurcissent parce que la nuit tombe. Je suis en face de toi, quelqu'un s'occupe de nous. Quel est votre prénom? Odile s'occupe de nous à ma gauche, donc je suis chez moi. Donc tu lis ce que tu as envie de lire.
Oui, eh ben, j'ai quand même envie de montrer le René engagé et qui se bat pour les autres. J'ai été arrêtée et mis en garde à vue durant 3 jours. Avant même de prouver mon innocence devant les tribunaux, je tiens à dénoncer avec la plus grande vigueur les conditions de détention dans les geôles. Ces geôles se trouvent dans les sous-sols des locaux de la PJ. Même les policiers n'y descendent jamais. J'ai eu la sensation, en franchissant ces grilles, de descendre vers le plus sombre Moyen-Âge. Dans cet autre monde, 10 gardiens vous mettent à poil et vous fouillent. On vous retire montre, chaînette, lacets, ceinture, et on vous pousse dans un cachot sans air ni lucarne, à 3 mètres carrés. On m'a même confisqué mes lunettes de vue, de peur que je les brise et ne me tranche les veines. Pas le moindre trou ou cabinet pour faire ses besoins. L'odeur qui règne dans ces cages est immonde. Celle des fauves dans les cirques ne sentent pas aussi mauvais. Les fauves ont l'avantage de respirer à travers les barreaux. Sans montre ni lumière extérieure, on ne sait plus si c'est le jour, si c'est la nuit. J'ai découvert qu'existait sous terre, dans les caves de l'évêché à Marseille, la ville où j'ai grandi, les plus sinistres geôles que l'on puisse imaginer, entre le Moyen-Âge et la cour des miracles.
C'est exactement ça. Moi, je suis resté 4 jours et 4 nuits dans ces geôles sous terre et j'ai appris plus tard que ça avait servi ces caves à la Gestapo et à la milice pendant la guerre. Ils n'ont rien changé. Ce sont les mêmes geôles, sans cabinet, et vous restez là pendant 4 jours et 4 nuits et de temps en temps, on vous monte avec des menottes, on vous met sur un fauteuil, on vous interroge pendant 8 heures et puis on vous redescend dans cette puanteur des sous-sols. Voilà. Je suis passé en procès il y a 3 mois, ici à Digne. J'ai été entièrement relaxé avec les excuses de la justice. Mais voilà comment, pendant 10 ans, j'ai été arrêté plusieurs fois. Le juge était là. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Tu tomberas avec la nuit » que j'ai envoyé au ministère de la justice, que j'ai envoyé à la cour d'appel d'Aix. Quelques mois plus tard, le juge, je peux dire son nom, parce que vraiment, ce type-là, il vaut mieux que je ne le croise pas sur un parking, c'est le juge Segonne. Il m'a harcelé pendant 10 ans et j'ai écrit un livre. Et quand je vais dans les prisons, je dis aux détenus, vous avez pris des calibres, vous avez sans doute fait du mal, vous avez tué. Prenez un stylo, posez vos calibres, prenez un stylo. Moi, je m'en suis sorti par l'écriture. J'ai écrit un livre et le juge Segonne est dans un placard. Après toutes ses erreurs, toute son arrogance, il est loin d'ici. Eh bien voilà, prenez un stylo et posez vos calibres.
C'est une démonstration du fait que l'artiste est engagé et citoyen et qu'il faut parler et écrire
pour
vaincre la...
Mais c'est la meilleure des armes, l'expression. Et alors... C'est assez comique quand même, parce qu'après ces 10 années de harcèlement, j'ai été jugé par un président, je dis son nom aussi parce que c'est un type très bien, le président Olive, qui est venu me voir ensuite après le procès. Nous sommes devenus amis, on a bu le café ensemble, il m'a invité à faire de l'avion avec lui dans son petit avion qui est Avignon. Voilà 2 juges qui font le même métier, juges. L'un est profondément intelligent et humain et l'autre est un abruti. Mais ils ont le même salaire, mais l'abruti, il restera juge à vie.
C'est l'histoire de toute une vie, ça. La
c'est
fonction d'où on est et d'où on part.
Exactement. Hein.
Alors moi, je vais faire une indiscrétion, là, carrément, parce que je sais, par indiscrétion, justement, que tu vas être accompagnateur, on va dire ça comme ça, d'un projet de bibliothèque au Brusquet. Et d'abord, j'avais juste envie de t'en remercier, parce que c'est quand même quelque chose qui ne court pas tout à fait les rues, que cet accompagnement-là. Je sais que tu es invité dans plein de festivals. Je sais que tu es sans fréquenter trop l'avion, je crois, hein, ni mais le train, oui, quand même, que tu te promènes beaucoup. Et c'est bien que tu restes quand même dans notre beau département, hein, pour être.
C'est le plus beau département que je connaisse. Moi, je marche toute l'année dans les gorges du Verdon, sur le plateau du Contadour, sur le plateau de Valensole. J'ai déboulé sur le plateau de Valensole cet été par hasard parce qu'il était fleuri et j'ai vu des centaines de Chinoises magnifiques. Elles viennent se marier là parce que ça porte bonheur, la lavande. Et j'ai vu danser toutes ces jeunes filles, mais c'est éblouissant. Il n'y a que dans ce département qu'on voit ces plateaux de lavande violets l'été et maintenant ils sont de toutes les couleurs parce que c'est plein de Chinoises qui viennent ici parce que ça porte bonheur.
Ah bon, c'est pour donc, ça. Alors,
les gens qui aiment les jolies femmes comme moi, qui aillent avec une table, un parasol et un stylo, ils n'ont qu'à ouvrir les yeux l'été. C'est un paysage inouï.
Eh bien, je trouvais que la lavande avait changé de couleur, mais j'ignorais pourquoi.
Ce sont des Chinoises. Toutes vierges parce qu'elles ne sont pas encore mariées en plus.
Voilà. Alors René, pour terminer, parce que malheureusement le temps passe et je vois que j'avais encore plein de questions à te poser, mais... Bon, tant pis. Hein. Je sais que lorsque tu prépares un nouvel ouvrage, tu ne veux pas en parler. Or, je sais aussi que tu écris, parce que je sais que tu refuses certains rendez-vous lorsque c'est pendant tes plages d'écriture.
Oui.
Alors, même si le livre est là, comme tu dis en te touchant la tête, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit mot, peut-être ?
C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai l'impression que je voyage à travers l'or des jours. Et j'écris actuellement... sans souci d'histoire, parce que je me suis rendu compte que quand on raconte une histoire, on perd beaucoup d'énergie. Et quand on écrit ce qu'on a de plus intime, comme un poète, j'écris comme un poète aujourd'hui, mais j'écris en prose, je raconte des histoires, non pas une histoire, parce qu'une histoire, ça te contraint à rester pendant une année avec deux, trois personnages, avec le même décor. Non, moi, je voyage dans ma tête, dans mon corps, et tous ces personnages que je rencontre sur les collines, sur les routes et partout... J'en parle parce que je crois que c'est ça l'essence de la littérature, c'est faire ce voyage intérieur vers ce qui me fait le plus peur, mais vers ce qu'il y a de plus beau aussi. C'est ça la littérature, tous nos désirs et toutes nos peurs. Et ce que je mets actuellement sur mes cahiers tous les matins et que je vais faire pendant tout l'hiver, c'est ce que j'ai de plus intime en moi, de plus précieux, de plus fort, je crois. Ce qui m'inquiète le plus et ce qui me rend heureux. Voilà, je choisis le mot juste, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non pas l'histoire, mais la forme, l'élégance de l'écriture, c'est-à-dire sa puissance, la petite musique, comme dirait Céline. Cette musique m'intéresse plus que ce que je raconte, la musique de chaque mot.
Merci, Monsieur Frény. Nous avons donc avec toi fait un voyage en enfance, un voyage immobile, un voyage, nous avons traversé la vie. Et je vais t'offrir un petit conte de sagesse soufie, juste pour l'impermanence des choses et pour ce chemin dont tu parles si bien, hein, qui nous amène tout doucement vers ce qui nous fait le plus peur aussi et qui est le port final. Alors, ce petit conte est extrait d'un livre dans une collection dirigée par Henri Gougaud. C'est un conte des sages soufis et ça s'appelle « La planche du géomancien ». N'as-tu pas remarqué sur la place du souk ce bateleur penché sur sa tablette en bois poudrée de sable fin ? C'est un géomancien. Il trace des traits, des figures, dessine des constellations, interroge la lune et le soleil, place la maison de la mort parmi les signes du zodiaque, celle de la naissance aussi. Il observe tel astre, tel autre ensuite, leur déclin, leur ascension. Il présage enfin l'avenir, les bonheurs, les guerres possibles. Quand tout est dit, bon ou mauvais, il prend la planche par un coin, il la secoue. Le sable s'envole. Emporte au vent dessin, étoile, ciel, terre, passé et futur. Ne reste rien de ce qui fut, plus rien qu'une tablette nue. Le monde est fait à cette image. Si tu ne peux pas résister à ces signes, à ces tentations, ne tourne pas autour du pot. Assieds-toi dans un coin et dors. Tu ne sais rien de l'univers. Si tu n'as pas ce cœur au ventre et cette patience obstinée qu'il faut aux hommes du chemin, serais-tu puissant comme un mont? Tu ne vaux pas un brin de paille.
C'est la question que tu me posais tout à l'heure, qui correspond à ce que tu viens de lire, qui est très beau. Tu me demandais pourquoi je vais dans les prisons. je te disais, je vais leur apporter des mots. Mais ils m'apportent largement. Je me suis aperçu en 20 ans que le bien et le mal ne traversaient pas l'humanité en deux parties égales. Comme on dit, il y a le grand Satan d'un côté, l'Occident, il y a les islamistes. Donc, le bien et le mal nous traversent tous, chacun de nous, à peu près à parts égales. C'est une question de chance, bien sûr, de terroir, de milieu. Mais le bien et le mal nous traversent tous, chacun, et c'est ce que j'ai compris. Que j'étais comme eux, même s'ils ont tué, j'aurais pu tuer dans d'autres circonstances, tu aurais pu tuer, Christian, dans d'autres... Voilà, nous avons eu la chance d'avoir des mots, une maman, mais sinon, le bien et le mal nous traversent tous à part égale.
Eh bien, grand merci René pour cette petite heure passée en ta compagnie. Et puis, nous allons nous quitter en écoutant Barbara, si tu le veux bien.
Et je crois que c'est ta première émission, je pense que ça va durer longtemps, parce que tu le fais avec une passion. Je te regardais préparer l'émission, les livres. Donc, longue vie à ton émission, dans le Jardin des mots. Je pense que tu reviendras souvent et que dans 3-4 ans, tu me réinviteras. Merci.
Et avec plaisir, j'en accepte l'augure.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et reflet le son et le glas. Je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais mon enfant.